Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, le club de la presse de Radio Orient, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Philippe Poutou, ancien candidat à l'élection présidentielle et aujourd'hui candidat du NPA aux législatives dans la 5e circonscription de Gironde. Bonsoir.
Bonsoir.
Philippe Poutou, avant de parler de votre candidature aux législatives, j'aimerais qu'on évoque avec vous les premiers pas du nouveau gouvernement. Un premier commentaire d'abord sur la composition de ce gouvernement, autant d'hommes que de femmes, la diversité qui est respectée, une majorité de ministres qui exercent des fonctions gouvernementales pour la première fois. Qu'est-ce que vous pensez globalement de ce gouvernement ?
Là, il y a un effort au niveau de l'image, effectivement, que ce soit la réelle parité, parce que là, c'est 17-17, la diversité avec à la fois des Arabes, des Asiatiques. Enfin, c'est vrai qu'il y a quand même un effort qui est fait, mais là, on va discuter sur l'image. L'effort se résume sur l'image, mais après, bon, ça changera rien sur la politique. Et de ce point de vue-là, on n'attend rien de plus du gouvernement Hollande, même si, je le répète quand même, on est très, très satisfait, même très heureux du fait que Sarkozy et toute sa bande aient été dégagés. Maintenant, voilà, le problème, c'est que le nouveau gouvernement, Parti Socialiste, puis avec ses alliés, il mènera sans aucun doute une politique libérale. Donc après, la question qui se pose pour nous, c'est comment on se défendra, comment on arrivera à stopper l'austérité et puis la politique libérale, comment on arrivera à faire en sorte qu'il y ait une politique qui réponde aux besoins des populations. Mais là, il faut pas qu'on attende, il va falloir que par en bas, du côté de la population, on s'organise, on se batte, on résiste et on exerce une pression. C'est tout l'enjeu de la période qui vient.
Donc les législatives, c'est une manière pour vous de corriger ce gouvernement, c'est-à-dire en essayant d'apporter une autre voie à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que le NPA peut faire à l'Assemblée nationale sous un gouvernement François Hollande ? Il n'y a jamais eu pour l'instant de député du NPA.
Non, puis même globalement du côté de l'extrême gauche, il n'y a pas de député. Alors, il y a une loi électorale qui est profondément antidémocratique puisque c'est un scrutin majoritaire à deux tours. Donc en fait, tous les petits partis, les petits courants ne peuvent pas avoir d'élus.
Vous êtes victime du vote utile.
Du vote utile, mais même normalement, enfin sans parler du vote utile, c'est qu'il devrait y avoir une représentativité de l'ensemble des organisations politiques, et pour cela il devrait y avoir une proportionnelle intégrale, parce qu'avant il y avait une proportionnelle à 5%, mais ça suffit pas. Là aujourd'hui il faudrait une proportionnelle intégrale. Par exemple, nous, si on se fiait au score des présidentielles avec 1 et quelques pourcents, 1% des 577 députés, ça ferait, si je ne me trompe pas, 5 et quelques députés. Donc comme il n'y a pas de virgule, ça ferait 5 députés. Voilà, donc c'est ce qui compterait, c'est ça, c'est une véritable démocratie, c'est le respect de la représentation et donc du vote de tout le monde. Et là, on n'en est pas là. Donc aujourd'hui,
en même temps, Philippe Poutou, si on avait la proportionnelle, on aurait aussi des députés de l'extrême droite. Vous voyez députés aux côtés de Marine Le Pen, que vous avez évidemment croisé sur les plateaux de télévision.
Ouais, enfin, on serait pas vraiment à côté puisque il y a une géographie politique de l'Assemblée nationale, donc on sera à l'opposé, donc on serait complètement, enfin très éloigné. Mais non, mais évidemment, ça aide d'ailleurs au nom du risque de présence de députés d'extrême droite que avait été supprimée la proportionnelle à 5%. Sauf que c'est pas comme ça qu'on combat les idées d'extrême droite. C'est pas parce qu'on supprimera ou on empêchera qu'il y ait des députés. Après, le problème, mais voilà, c'est qu'il faut absolument une véritable démocratie, c'est qu'il faut qu'il y ait une présence, une représentation politique réelle. Et évidemment, nous on tiendrait à ce qu'il y ait une proportionnelle intégrale, même si ça devait multiplier. Après, le problème, c'est comment on combat les idées du Front National, comment on combat les idées racistes, xénophobes, antisémites. Bon, ça, c'est un véritable problème politique, il faut qu'on discute. D'ailleurs, c'est quelque chose qui fait partie des premières préoccupations chez nous et chez beaucoup de gens d'ailleurs, parce qu'on a vu, les 18% du Front National au présidentiel, relance un peu cette inquiétude-là, comment ce courant peut se développer, se maintenir et se développer. En plus, c'est complètement paradoxal, parce qu'on est dans une situation de crise. On pourrait penser que ce serait la révolte contre le système capitaliste et puis un sentiment du côté des opprimés qui serait la solidarité et puis le fait de se serrer les coudes. Et ben non, c'est le contraire aujourd'hui qui s'implante de plus en plus parmi la population. Donc ouais, il y a un gros danger pour nous, mais le combat, c'est un combat politique, c'est un combat surtout qui dépendra finalement du fait que du côté de la population il y ait une véritable bataille sociale pour défendre nos intérêts au quotidien.
Alors Philippe Poutou, je reviens à ce nouveau nouveau gouvernement, il y a eu deux actes importants. Lors du premier Conseil des ministres, la décision de baisser la rémunération des ministres et du président de la République de 30%. Il y a aussi une charte de déontologie. Les ministres doivent par exemple refuser toute invitation pour un séjour privé de la part d'un gouvernement étranger ou encore refuser les cadeaux d'une valeur supérieure à 150 euros. Ils doivent s'abstenir aussi d'intervenir pour la situation d'un membre de leur famille ou d'un proche. Tout ça, c'est nouveau. C'est de bon augure, ces engagements du gouvernement ?
Non, mais encore une fois, je vais pas dire que c'est pas bien. C'est vrai que tout ça ne peut aller que dans, enfin, ça va dans le bon sens, on va dire, puisque c'est un peu plus de transparence peut-être. En tout cas, il y a une volonté de rendre des comptes et puis au moins de montrer dès le départ que ça ressemblera pas à ce qu'a fait Sarkozy et toute sa bande. Mais après, ce qu'il y a derrière, c'est il faut qu'on discute réellement d'une véritable transparence à tous les niveaux. Donc, il faudrait qu'on discute du pouvoir économique et des liens qu'il peut y avoir entre le pouvoir économique et le pouvoir politique. Et là, ben là, on en est très loin quand même, quoi. C'est parce que aujourd'hui, c'est pas parce que le revenu du président va baisser 30% ou même celui des ministres alors qu'ils avaient augmenté il y a 5 ans hein, parce que je crois que Sarkozy s'est augmenté de plus de 140% son propre revenu, donc là en le baissant aujourd'hui on est toujours au-dessus de ce qu'il y avait avant, donc voilà on est dans des trucs un peu à la con là. Le problème aujourd'hui c'est comment on répond à la misère, comment on répond au chômage, à la précarité, et là ça passera par la remise en cause d'un pouvoir économique. Là il faut qu'on discute des grosses fortunes, il faut qu'on discute du pouvoir des capitalistes, du revenu des capitalistes, et donc des liens qu'il peut y avoir entre la finance et la politique, et c'est tout ça qu'il faut qu'on mette à plat.
Alors, j'imagine tout de même que vous avez dû être très intéressé par la nomination d'Arnaud Montebourg, qui est un ministre classé plutôt à la gauche du Parti Socialiste. Il s'est fait connaître pour ses positions contre la mondialisation. Il est désormais ministre du redressement productif. Alors, vous qui défendez les ouvriers, vous êtes ouvrier dans une usine à Blanquefort, en Gironde. Qu'est-ce que vous attendez d'Arnaud Montebourg au moment où on redoute l'arrivée de plans sociaux qui auraient été gelés avant la présidentielle? Voilà, on peut lire dans la presse qu'il y a des plans sociaux en préparation dans l'industrie, dans la grande distribution, les transports, les services, la banque. On a encore appris cette semaine qu'il y aurait des départs volontaires de 500 personnes chez Air France. Qu'est-ce que vous attendez d'un ministre?
Même, je crois. C'est 5 000 personnes sur les 3 ans qui viennent. Ouais.
Qu'est-ce que vous attendez d'un ministre du redressement productif?
Mais justement, ce matin, j'étais au téléphone avec des camarades de Fralib, hein, qui travaillent dans une entreprise qui est menacée de fermeture. Bon, enfin, ils se battent depuis 16 ou 17 mois pour empêcher cette fermeture-là. C'est une entreprise de 182 salariés qui appartient à un groupe Unilever. Et eux, ils sont vraiment dans la situation d'urgence et ils attendent effectivement que le gouvernement socialiste passe des paroles aux actes, c'est-à-dire des promesses qui avaient été faites par Hollande et Montebourg qui étaient venus les voir pendant la campagne électorale. Mais là, ce qu'ils font, là, les collègues de Fralib, c'est que justement, ils attendent pas. Ils sont pas en train de se dire, ah ben voilà, il y a un gouvernement de gauche, on va attendre qu'ils nous fassent des trucs. Ils ont occupé l'usine depuis la semaine dernière, réoccupé leur usine. Donc ils essaient d'exercer une pression à la fois sur leur patron et sur les pouvoirs publics. Parce que justement, ils ont compris que ça sera parce qu'il y aura une pression par en bas, parce qu'il y aura une lutte qui essaiera de sensibiliser à la fois la population, mais d'exercer une pression, donc de pousser à ce que le gouvernement agisse. Et c'est comme ça qu'ils font. Et Montebourg doit passer les voir, effectivement, dans la semaine. Mais ça passera par une pression. Et c'est là où on n'est pas en position d'attente. Parce que Montebourg, effectivement, il a une image de gauche, ou en tout cas à la gauche du PS. Enfin, il a été capable aussi de faire des déclarations qui vont un peu dans tous les sens, hein, que ce soit sur l'immigration, il y a quand même pas mal de choses qui sont pas très claires, et d'ailleurs tout simplement chez l'ensemble des dirigeants du PS. Mais le problème, c'est pas d'attendre, le problème, c'est de se battre, c'est de s'organiser, de résister et d'arriver à ce qu'à un moment donné, dans le pays, il y a un rapport de force qui change. Alors, et il faut imposer une véritable politique de gauche, et ça passera par la solidarité et la lutte sociale.
Vous avez parlé tout à l'heure du pouvoir économique. Comment un gouvernement peut-il lutter contre le pouvoir économique? Effectivement, il y a des lois. On ne peut pas effectivement décider d'un plan social comme ça. Néanmoins, quand une usine a des difficultés économiques, est-ce qu'on peut simplement, d'un coup de baguette magique, décider qu'on garde des emplois alors qu'il n'y a plus de clients, que la production ne fonctionne plus?
Le problème, c'est pas une histoire de baguette magique, mais c'est une histoire de caisse. Enfin, c'est toujours pareil. C'est qu'on voudrait nous faire croire que finalement, voilà, il y a des lois économiques qui s'imposent d'elles-mêmes, qui sont d'ailleurs au-dessus de tout. Et pour qu'une société fonctionne, eh ben voilà, on n'y peut rien. Il y a aujourd'hui, ben si on veut produire, si on veut vendre, eh ben il faut augmenter la rentabilité. Et ça tombe toujours sur les salariés qui sont en bas de l'échelle sociale. Et c'est toujours à eux de prendre les coups. C'est toujours à eux de subir et d'accepter les restrictions. Donc ouais, c'est surtout ça qu'il faut qu'on arrive à discuter. C'est que c'est pas plus compliqué aujourd'hui d'imposer un plan de licenciement que d'imposer l'interdiction des licenciements. C'est une question de choix politique. Alors c'est vrai qu'on est habitué, on est dans un système qui appartient aux plus riches, aux fortunes, aux capitalistes. Ce sont les financiers et les capitalistes qui décident de tout. Mais c'est ça qu'il faut qu'on arrive à inverser. Donc le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il faudrait un gouvernement qui ose faire des choix inverses à ce qui ont été faits pendant des années. Et qu'on nous fasse pas croire que ça c'est pas possible. C'est oui, il y a besoin d'une politique qui soit autoritaire, mais à l'encontre des capitalistes et des financiers. Mais ça voudrait dire évidemment que ce gouvernement-là soit appuyé par des luttes sociales, soit appuyé par une mobilisation générale de la population qui permettrait d'imposer une politique qui soit donc à l'opposé de ce qui a été fait pendant des années. Donc c'est ça la question qui se pose aujourd'hui. Et il y a pas de raison, par exemple, que l'économie, ça se traduise par une montée du chômage, par des baisses de salaires, par l'augmentation du temps de travail, par le report de l'âge de la retraite. Tout ça, c'est toute une propagande qu'on nous met dans la tête à nous, les opprimés, à nous, ceux d'en bas, pour nous faire accepter ça. Donc ça, il faut l'inverser.
Mais en même temps, quand je prends l'exemple de la FNAC, il semblerait que voilà le PDG de la FNAC s'apprête à licencier du personnel. Beaucoup de gens achètent des livres sur Internet. Les gens se déplacent de moins en moins dans les magasins. Est-ce qu'il est possible de continuer à garder des employés quand il n'y a plus de clients?
Mais les patrons, ils ont toujours des prétextes pour justifier des licenciements. Auchan, c'est pareil, ils veulent développer les drives parce que les gens commandent de plus en plus sur Internet, donc il va falloir supprimer des emplois dans les magasins. Mais on sait très bien que quand ils vont supprimer des emplois dans les magasins, alors qu'en même temps, le taux de les visites dans les magasins augmentent, en tout cas chez Auchan, mais ils vont quand même supprimer des emplois. C'est-à-dire qu'ils vont toujours avoir une argumentation pour dire, bon ben voilà, ça évolue, la consommation n'est plus la même, et donc on va faire comme ça. Mais au bout du compte, ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est toujours les mêmes solutions, c'est-à-dire des suppressions d'emplois, des conditions de travail qui se dégradent et une pression considérable qui est accrue, qui s'accroît sur l'ensemble des salariés. Donc voilà, il faut bien comprendre qu'il y a une propagande en permanence et que nous, on essaie de nous faire accepter la chose et en disant, ben voilà, comme s'il y avait une fatalité quelque part. Et c'est ça, encore une fois, qu'il faut inverser. Et moi, je redis, c'est pas plus compliqué aujourd'hui de préserver l'emploi que de licencier, sauf que c'est pas les mêmes intérêts qu'on met en avant. Et aujourd'hui, ben oui, une entreprise qui est pas capable de maintenir les emplois et qui fait des profits, Eh bien, à la limite, il faudrait qu'on la réquisitionne ou il faudrait trouver des solutions qui soient autres, mais il faudrait imposer le maintien des... Au minimum, il faut imposer l'interdiction des licenciements, il faut imposer le maintien des emplois, parce qu'on sait que, de toute façon, depuis 30 ans, c'est cette politique de suppression d'emplois, d'augmentation du chômage, de précarité, de baisse des salaires et d'attaque sur tous les avantages sociaux, que ce soit la retraite, que ce soit même le temps de travail. Et on voit bien qu'à chaque fois, on nous dit ça, c'est la solution pour empêcher la montée du chômage, et c'est toujours le chômage qui augmente et la pauvreté qui augmente. Donc, il faut stopper cette politique-là.
Alors, vous êtes syndicaliste, vous défendez les luttes sociales des salariés. En même temps, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi s'adresser aux clients de ces entreprises? Est-ce que les clients, les Français, les consommateurs, ne seraient pas aussi en mesure de maintenir ces emplois, peut-être en faisant pression sur ces dirigeants, mais non pas à travers des luttes sociales, mais je dirais par des actes citoyens, des actes solidaires? Est-ce que c'est une forme de lutte nouvelle à inventer? Je pense par exemple, ces caissières qu'on est en train de licencier parce qu'on les remplace par des machines. Est-ce que vous ne pensez pas que on est tous responsables de ces licenciements en allant vers les caisses automatiques? Ou alors est-ce que vous dites que c'est le progrès, il faut aller vers le progrès?
Oui, on est pour le progrès, mais alors là on s'aperçoit que le progrès il rend plutôt service au patron et permet de réduire la main d'œuvre et donc effectivement d'augmenter la rentabilité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les caisses automatiques permettent de supprimer des emplois. Enfin, ça c'est un exemple. Enfin, on peut parler des robots dans les usines. Enfin, l'exemple classique, qui fait qu'à chaque fois qu'il y a un progrès technique et un progrès scientifique, ça se traduit. Enfin, c'est ce que le patron nous explique. Voilà, il y peut rien. Encore une fois, voilà, ça c'est le progrès qui fait que. Mais c'est pas. Après, c'est trop facile. On peut toujours dire.
On parle aujourd'hui d'économie sociale, solidaire et équitable. Il y a même un ministre maintenant qui est en charge de cette fonction, Benoît Hamon. Et voilà. Est-ce que ça pourrait pas être l'occasion de penser un autre modèle aussi de consommation? Et là, je ne parle pas seulement des luttes sociales. Là, je parle vraiment des consommateurs.
Non, mais il y aurait plein de choses à voir effectivement sur la façon de consommer, qu'est-ce qu'on produit, pourquoi on le produit, qu'est-ce qu'on consomme, pourquoi on consomme ça. Il y a des tas de choses à discuter. Et puis derrière, il y a pas mal de gens qui critiquent ce qu'on appelle la société de consommation, hein, où on va acheter des choses, des tas de choses dont on n'a pas forcément besoin. Mais le problème, il y a ce problème-là, c'est sûr. Mais fondamentalement, il y a le problème de l'emploi et le problème donc de l'économie, comment elle fonctionne et d'à qui décide et à qui appartiennent les entreprises. Et on voit bien que c'est le monde des capitalistes qui possède les entreprises, qui décide en fait d'embaucher, de licencier ou qui décide de la santé d'une entreprise par rapport à leurs propres intérêts privés. C'est ça qu'il faut qu'on remette en question. Après, on peut toujours discuter du mode de consommation, mais d'abord, il faudrait qu'on discute du mode de production et du mode de répartition des richesses qui sont liées à la production. Et c'est nous, on remet en question ça. C'est pour ça qu'on est anticapitaliste. Et après, c'est vrai qu'il faut qu'on discute de tout ça, mais encore pour revenir à l'exemple des caisses. Parce que il y a des caisses automatiques, donc les gens vont vers les caisses automatiques parce qu'effectivement tout est fait pour que ce soit plus rapide là, puisque comme il n'y a pas assez de caissières et les caisses normales, ben il y a trop de monde en attente et après on va culpabiliser les gens parce qu'ils vont gagner du temps comme ça. Ça tient pas debout. On est pour le boulot de caissière, c'est très dur. C'est d'ailleurs il y a beaucoup de caissières qui souffrent de ce qu'on appelle des maladies, des troubles musculo-squelettiques, hein, des maladies articulaires, tendineux, qui sont liés à la répétition du geste. Donc on est pour l'amélioration des conditions de travail. Et s'il y a des caisses automatiques, tant mieux. Mais maintenant, après, qui décide? Et là, et le problème, c'est que c'est le patron d'Auchan, par exemple, qui va décider de licencier parce que aujourd'hui il y a des caisses automatiques. Et c'est ça qu'il faut qu'on remette en cause, c'est-à-dire de celui qui décide, de celui qui possède. Et donc aujourd'hui, s'il y a des caisses automatiques, ça devrait permettre de soulager les conditions de travail des autres. Et ça devrait permettre, au contraire, en maintenant les effectifs, de répartir le travail différemment. Et c'est ça qu'il faudrait qu'on arrive à discuter. Mais justement, s'il faut se sortir de ce fatalisme-là. Comme quoi il y aurait aujourd'hui des contraintes économiques tellement sévères qu'il faudrait à chaque fois réduire les effectifs pour pouvoir s'en sortir. Et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à combattre.
Vous avez évoqué tout à l'heure, Philippe Poutou, la possibilité de réquisitionner des entreprises. D'abord, est-ce que ça s'est déjà fait dans le passé? Et est-ce que à l'étranger, il y a des exemples qui pourraient nous servir de modèle? Voilà, le modèle anticapitaliste que vous défendez, pour l'instant, c'est une utopie qui n'a jamais... Une existence réelle aujourd'hui en France.
Il y a des exemples, mais très très rares. Bon, à la sortie de la guerre en France en 45, il y a eu des entreprises, mais justement tous ceux qui avaient collaboré avec les nazis, il y avait des entreprises comme Renault qui avaient été expropriées à ce moment-là et donc réquisitionnées. Après aujourd'hui, il y a l'exemple de l'actualité, ce sera en Argentine par exemple, où au niveau du pétrole, il y a des nationalisations ou des renationalisations après avoir privatisé.
Là, au Venezuela aussi.
Ouais, alors c'est pas des expropriations, pas des réquisitions parce qu'il y a rachat, mais enfin ceci dit quand même, on pourrait dire que ça pourrait être comparable, mais c'est là encore une fois, c'est une question de choix politique, de décision politique, mais c'est forcément un affrontement avec ceux qui possèdent l'économie, et ça c'est vrai que très peu de gouvernements en sont capables aujourd'hui, parce qu'ils sont trop liés et trop au service des plus riches et des capitalistes.
Mais quand vous dites réquisition, vous pensez nationalisation?
Mais non, parce que, enfin, plus que nationalisation, parce que la nationalisation, on a connu ça en France à l'époque de Mitterrand, mais on avait vu que ça rendait service aussi au capitalisme, parce qu'on rachète à prix fort, comme les banques qui avaient été nationalisées en 81, 82, c'était racheté à prix fort à ceux qui possédaient les banques, et après, quand les banques deviennent rentables, elles ont été à nouveau privatisées. Et à ce jeu-là qui est, non, la question, c'est de pouvoir nationaliser réellement, mais c'est-à-dire mettre sous contrôle des salariés et de la population. Et aujourd'hui, c'est par exemple, on pense que tout le système bancaire à l'échelle européen doit être exproprié et mis sous contrôle de la population pour pouvoir jouer un rôle utile à l'ensemble de la société. Et après, au niveau de l'industrie, parce que je reviens à Fralib, mais on pourrait parler d'Arcelor, on pourrait parler de Petroplus, on pourrait parler de ces grosses entreprises-là. Oui, il faudrait, notamment dans le secteur de l'énergie, il faudrait exproprier et faire un véritable service public de l'énergie et qu'il soit aussi sous contrôle des salariés et de la population. Et après, sur l'industrie, bon, je reviens à la Fralib. Oui, une usine comme Unilever veut fermer cette petite usine-là, 180 salariés. Eh bien, alors qu'on sait qu'il y a un marché, on sait qu'il y a possible puisqu'ils fabriquent du thé, eh bien oui, ça pourrait être un exemple aussi que l'État décide de réquisitionner. Mais si l'État ne réquisitionne pas, les salariés pourraient le faire eux-mêmes. Et d'ailleurs, à Fralib, ils ont un projet de réorganisation de leur production et ils savent à qui ils pourraient vendre. Ils ont tous des liens avec un réseau de distribution. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, une véritable démocratie, ça passerait aussi par ça, c'est-à-dire par en bas, du côté de la population, du côté des salariés, du côté des habitants dans une commune. Il pourrait y avoir décision de prendre en main des outils de production et notamment ce qui paraîtrait plus urgent, c'est tout ce qui concerne l'écologie et la protection de la planète et donc le secteur de la production de l'énergie.
Quand vous dites qu'une partie de la production pourrait être contrôlée par la population ou les salariés, vous pensez à quoi précisément ? C'est-à-dire que c'est un peu vague, les salariés, la population, on sait bien que les entreprises sont dirigées par des dirigeants précisément.
Ouais.
Voilà, comment on dirige une entreprise, je dirais, avec des salariés, voilà, ça se passe comment ? À main levée, c'est parce que il y a des décisions économiques parfois qui se prennent dans l'urgence. Il faut aussi évidemment des compétences précises pour diriger une entreprise. Voilà, est-ce que c'est possible techniquement ?
Ah bah techniquement c'est sûr que c'est possible. Après la question c'est surtout comment on pourrait au niveau d'une population, au niveau d'un collectif, au niveau de millions de bonhommes ou de dizaines de millions de bonhommes ou de bonnes femmes arriver à organiser une production. Et là ça c'est vrai que c'est difficile à imaginer quand on voit ce qui se passe aujourd'hui. Mais le truc quand on nous présente ça comme des choix impossibles parce que en fait il y a aujourd'hui une économie qui fonctionne au service d'une poignée de dirigeants. Voilà, et on essaie d'ailleurs de nous rendre l'économie le plus compliquée possible pour bien nous mettre dans nos petites têtes à nous, hein, ceux d'en bas, que finalement, ben, c'est inaccessible. Voilà, il faut être super fort, il faut être super spécialiste pour pouvoir organiser l'économie et surtout qu'on est dans un monde de concurrence acharné avec les frontières et à l'échelle de la planète, on mesure bien toute la difficulté qu'il y aurait. Mais voilà, c'est justement ça, d'essayer de vous faire croire que c'est pas possible autrement. Sauf que nous, on discute d'une économie qui se poserait le problème de produire en fonction du besoin des populations. Et là, le recensement des besoins, ça ne peut être que fait par en bas. Et après, on pourrait discuter de comment on organise la production, une fois qu'on a discuté, par exemple, de ce qu'il faudrait produire, de comment il faudrait le produire. Et après, la question d'une production, c'est facile à avoir, hein. Ce sont les salariés qui maîtrisent les process de production, qui savent comment fonctionnent les machines, qui savent les réparer et qui même savent après distribuer la production, tout le réseau logistique et tout ça, ce sont des millions de salariés qui s'occupent de ça. Donc, mais après, ce serait des choix politiques.
Mais vous mettez en avant le collectif, alors que précisément la direction d'une entreprise, souvent, ça n'est pas collectif, c'est un individu qui décide.
Enfin, c'est un individu ou une poignée d'individus, parce qu'après, il y a les conseils d'administration, il y a les actionnaires et tout ça, mais c'est surtout, oui, que là,
La gestion au quotidien, c'est souvent un patron, ses conseillers.
Oui, mais ça peut être des décisions même individuelles, effectivement, de celui qui a les plus grosses parts d'action et tout ça, bien sûr. Mais on est dans deux projets complètement opposés. Il y a le système capitaliste où c'est une poignée qui dirige et qui dirige par rapport à ses propres intérêts privés, et le projet d'une société réellement collective où là, ce serait des millions de gens par en bas, donc les salariés, des populations dans les quartiers partout. Où on pourrait discuter d'une véritable démocratie directe, une démocratie par en bas, où tous discutent collectivement. Alors après, c'est vrai que ça fait poser la question, mais dans le monde dans lequel on vit, est-ce que c'est vraiment possible ? Est-ce que c'est pas utopique ? Est-ce qu'on n'est pas en train de rêver qu'un jour l'humanité pourrait s'entendre et puis coopérer et arriver à partager les richesses équitablement entre toutes et tous ? Bon, peut-être qu'on peut discuter que c'est utopique, mais nous on pense que c'est la seule solution, parce que d'ailleurs on le voit aujourd'hui, le capitalisme, c'est une société qui est incapable de répondre aux besoins des gens, parce que là on parle de la France ou des pays dits riches, où on voit bien qu'il y a du chômage et la précarité qui augmente. C'est des difficultés pour plein de gens. En plus, il y a les difficultés de racisme, il y a toutes les oppressions différentes qui existent aujourd'hui, le sexisme. Enfin, on voit à quoi ça conduit tout ça. Mais après, à l'échelle de la planète, c'est aussi des peuples qui meurent de faim, comme en Afrique. C'est la famine aussi au Mexique. C'est plein de problèmes un peu partout. Donc, il y a vraiment urgence pour discuter d'une société réellement démocratique où les populations aient le droit de décider, le droit d'organiser et puis le droit de tout simplement de diriger un système économique à l'échelle de la planète.
Philippe Poutou, ces dernières années, il est arrivé que des syndicalistes soient condamnés à des peines de prison en raison des actions qu'ils ont menées. Ainsi récemment, le procureur de Rennes a encore demandé 3 mois de prison avec sursis à l'encontre d'un syndicaliste de la Poste pour violence volontaire. Sur cette question des poursuites contre les syndicalistes, qu'est-ce que vous attendez de la nouvelle ministre de la Justice, Christiane Taubira ?
Ben, on aimerait bien que, enfin, que ce processus de répression, enfin, toute une politique répressive qui est mise en place depuis des années, qui a été amplifiée par Sarkozy et
sa bande. Ça s'est amplifié véritablement. Vous avez
ces dernières années,
des chiffres,
ouais.
Vous...
Ben, non, des chiffres. Enfin, nous, on a des exemples, hein. Il y a les militants anti-OGM, il y a Xavier Mathieu et les Conti, suite à la lutte contre la fermeture de l'usine. Il y a eu, il y a pas mal de procès ou de tentatives de procès, quand dès qu'il y a des salariés qui se battent quelque part. Il y a eu Molex, Afralib aussi. Dès qu'ils se battent, on essaie de les expulsés, voilà, c'est tout ce qui se passe un peu partout. Donc, mais globalement, oui, il y a une amplification de la répression. Il y a aussi la répression dans les quartiers populaires, avec une police beaucoup plus présente, avec ce qu'on appelle la BAC, hein, enfin ce qui s'appelle la BAC, hein, avec une répression quand même qui s'est d'ailleurs traduit, là c'est plus dramatique, hein, par des morts de jeunes dans des quartiers populaires. Donc on a bien vu ces dernières années, oui, toute une répression qui se met en place. Mais c'est logique, parce que plus il y a une crise, plus il y a d'appauvrissement, plus il y a de chômage, plus il y a de précarité, plus il y a de désespoir, et bien c'est logique aussi que du côté des dirigeants, des gouvernements, il y a ce souci-là de museler encore plus la population parce que les risques de révolte sont plus importants. Donc voilà, il y a cette logique-là qui s'est mise en place. Alors est-ce qu'avec le gouvernement socialiste, ça va se stopper ? On peut penser que oui, en tout cas, que ça va se ralentir. Mais encore une fois, il va falloir que les réseaux militants, associatifs, syndicaux ou politiques à la gauche de la gauche exercent une pression énorme pour pouvoir stopper cette politique-là. Et je pense notamment au réseau Éducation sans frontières qui mène toute une bataille. Je pense qu'il faut pas que ces efforts-là se relâchent parce qu'il faut surtout
Le gouvernement. On n'obtient rien sans rapport de force, ce gouvernement socialiste.
Ah oui, il faudra certainement un rapport de force, il faudra certainement une pression qui soit exercée, il faut qu'aucun effort militant soit relâché. D'ailleurs, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'illusions dans les milieux militants sur le nouveau gouvernement. On peut espérer quand même que ça va se calmer, parce que de toute façon, le gouvernement, il a tout intérêt à montrer que il va pas continuer la même politique de ce point de vue-là, donc tout le côté répressif. Et on peut espérer que même du côté des sans-papiers, des travailleurs sans-papiers ou pas, il y ait un assouplissement des règles et puis qu'il n'y ait pas cette volonté d'expulser comme c'était le cas jusqu'à présent, même si on peut s'en inquiéter parce que les discours de Hollande ou même de Montebourg d'ailleurs à ce propos-là sont pas si rassurants que ça parce qu'ils justifient eux aussi une limitation de l'immigration et ils justifient la continuité grosso modo d'une politique qui avait été menée jusqu'à présent. Donc il y a un danger.
Ils vont régulariser au cas par cas.
C'est ce qu'ils disent, voilà, mais bon, le cas par cas c'est compliqué. On sait que de toute façon ça reposera sur la lutte par en bas de tous les réseaux associatifs et militants, tous ces tissus de solidarité qui se sont mis en place. Mais oui, il faudra, à tous les niveaux, il faut que la bataille continue, que ce soit pour sauver les emplois, que ce soit pour maintenir les conditions de travail, que ce soit pour améliorer le service public et empêcher les suppressions d'emplois dans les services publics, que ce soit en ce qui concerne l'écologie, et donc en ce qui concerne la répression, oui, il faut mener une bataille, continuer à la mener et exercer une pression.
Philippe Poutou, j'aimerais qu'on évoque à présent votre nouvelle candidature. Voilà, nos auditeurs vous connaissent depuis l'élection présidentielle. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre circonscription ? Alors, on connaît maintenant Blanquefort, cette ville où vous travaillez, où se trouve l'usine Ford. C'est aussi une région vinicole. Il y a des châteaux, des propriétaires terriens. C'est le Médoc. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette région ? J'imagine qu'un candidat anti-capitaliste dans cette région, ça doit détonner.
Oui, ça n'était pas très longtemps une région qui était à droite, hein, avec députés de droite. Ça fait que depuis 5 ans qu'il y a une députée du Parti Socialiste. Hein. Et c'est aussi une région avec plein de paradoxes, mais comme plein de régions. Mais c'est vrai que là, dans le Médoc, on a un super gros paradoxe. C'est d'un côté les châteaux de vin, très connus, hein, les châteaux du Médoc, avec des propriétés foncières, enfin de beaucoup d'argent, beaucoup de richesses, d'un côté, pour une poignée en tout cas de la population médocaine. Et de l'autre côté, c'est aussi beaucoup de pauvreté. C'est une région où il y a énormément de chômage et de pauvreté, de précarité. Et c'est surtout la population immigrée qui en est victime, hein, population arabe, portugaise, espagnole, parce que toutes les terres agricoles ont été évidemment utilisent beaucoup de main-d'œuvre immigrée et c'est cette main-d'œuvre-là qui traîne beaucoup et un des paradoxes justement c'est là aussi c'est encore une région où il y a eu des bons scores du Front National et c'est là où c'est dingue, hein, c'est que c'est des endroits où les gens en prennent plein la gueule, où il y a une souffrance réelle, où il y a une difficulté de vie, et ben il y en a quand même quelques-uns qui vont penser que la solution ça va être vers le Front National qui attise des haines et qui spéculent sur les préjugés racistes et contre donc les immigrés dans cette région-là. Et voilà, il y a un gros danger, donc il y a un enjeu énorme pour nous, hein, c'est combattre cette situation-là, cette situation de remonter des idées, enfin de remonter, on peut dire que ça fait des années que ces idées sont là, ces préjugés-là, mais oui, il y a, il y a une grosse bataille à mener contre l'influence de l'extrême droite et du Front
Comment
National.
Vous expliquez que l'extrême droite ait fait ce score à l'élection présidentielle et on a l'impression que ça va aller en s'amplifiant puisqu'on voit quelques responsables, ils sont encore minoritaires, mais quelques responsables de l'UMP rejoindre Marine Le Pen, ouais. En tout cas pour ces législatives, voilà, une minorité, mais c'est quand même un signe.
Ben, c'est toujours difficile à expliquer la montée des idées racistes ou xénophobes, parce que tellement ça apparaît comme d'une violence extrême, mais qu'on subit nous-mêmes, nous les opprimés. Mais il y a une situation de crise avec de la pauvreté, du chômage, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça se retourne contre les premières victimes de cette situation-là. On peut dire que le racisme, c'est pas le Front National qui va l'inventer ou pas l'UMP, mais c'est tout simplement la société d'oppression dans laquelle on vit. Et plus le système repose sur de l'oppression de toutes formes, de toutes sortes, eh bien, on s'aperçoit que ces idées-là existent d'elles-mêmes dans la société. Après, en temps de crise, avec l'aggravation de la pauvreté et de la précarité, eh bien, on voit bien des partis comme l'UMP et le Front National qui vont spéculer là-dessus et qui vont essayer de diviser le camp des opprimés, qui vont essayer d'utiliser ces préjugés-là pour affaiblir le camp des opprimés et détourner le mécontentement des plus pauvres contre eux-mêmes, finalement. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que bien souvent, des dirigeants ou des gouvernements gardent un pouvoir. Hein, c'est ce que la phrase bien connue, hein, diviser pour mieux régner, et ben on est là-dedans dans l'utilisation de ces préjugés-là pour diviser donc là c'est une explication. Après, ce qui est quand même très problématique, c'est de voir que ça marche encore aujourd'hui, que des opprimés, que des gens qui sont au chômage vont voter comme ça et vont penser que finalement le problème ça sera que il faut limiter l'immigration ou qu'il faut s'en prendre aux immigrés. Voilà, il y a un gros problème et c'est vrai que c'est une grosse bataille qu'il faut qu'on mène.
Qu'est-ce que les habitants de votre circonscription attendent de leurs députés? Voilà, vous commencez cette campagne électorale après cette présidentielle, à quoi doit servir un député d'après ce que vous les remontées que vous avez de vos rencontres, parce que le député est finalement moins bien connu que le maire, que le il paraît éloigné des préoccupations des gens.
C'est difficile à dire ce que les gens attendent parce qu'il y a tellement de déconnexion entre la population et le monde politique. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui se sentent plus représentés.
Et parfois, on ne connaît même pas le nom de son député.
Puis le député, puis l'ensemble du monde politique. Je crois qu'il y avait une véritable déconnexion. On le voit notamment avec l'abstentionnisme qui reste très important, y compris dans les présidentielles, puisque une personne sur cinq ne vote pas aux présidentielles, et ça, on compte pas ceux qui ne sont pas inscrits sur les listes. Et après, dans des élections comme les législatives ou les régionales ou les cantonales, on voit que aussi le taux d'abstention est encore plus important, alors que ce sont des élus locaux. Donc, on voit bien qu'il y a une déconnexion. On voit bien qu'il n'y a pas tellement d'attentes de la population par rapport à tout ça. Il y a tellement d'écœurements, de désillusions au fil des années qu'aujourd'hui, on en est à une déconnexion réelle. Alors après, nous, dans cette campagne-là, nous, la NPA, parce que là, on va présenter à peu près... moi, je suis candidat donc dans la 5e circonscription de Gironde, donc dans le Médoc, mais on va être un peu plus de 300 candidats NPA sur tout le territoire. Et ce que nous on veut faire entendre, c'est déjà cette voix anticapitaliste, c'est une voix de la révolte, une voix de la dénonciation de ce système-là, et aussi en même temps d'essayer de discuter des perspectives qu'on a nous. Donc c'est tout ce qu'on discutait juste avant, c'est la nécessité d'exercer une pression, de se battre et de retrouver une solidarité dans le camp des opprimés, donc de combattre à la fois tout ce qui nous divise, hein, donc les idées racistes, les idées xénophobes, de combattre toutes les oppressions, et en même temps d'affirmer cette perspective-là que l'économie elle peut offrir autre chose. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on se heurte, qu'on s'affronte au camp social qui dirige ce système-là, donc aux capitalistes et aux financiers. Et ça pose le problème que la population doit prendre ses affaires en main, doit faire de la politique elle-même, et c'est un peu tout ça qu'on veut défendre dans ces élections-là. Mais c'est la continuité des présidentielles. On espère nous construire un parti politique qui soit anticapitaliste mais en même temps indépendant du Parti Socialiste et de l'ensemble des institutions, construire un parti qui soit un outil pour le monde des opprimés, pour organiser les luttes, pour résister ensemble et pour changer ce système-là. Donc c'est cette perspective-là qu'on veut défendre, c'est toutes ces idées-là qu'on veut mettre en avant, et on espère bien, dans la période qui vient, qu'il y ait un réveil du côté des opprimés.
L'invité de Pluriel est Philippe Poutou, ancien candidat à l'élection présidentielle, aujourd'hui candidat du NPA aux législatives dans la 5e circonscription de Gironde. Alors comment faites-vous campagne aujourd'hui localement, puisque on vous a vu sur tous les plateaux de télévision durant cette présidentielle. J'imagine qu'au niveau local, c'est totalement différent. Vous faites du porte-à-porte, vous faites des meetings. Alors en même temps, vous travaillez, c'est quand même pas très facile.
Mais là, il faut tout faire, essayer de tout faire en même temps. Cela, je vais avoir des déplacements parce que j'aurai des meetings Sur d'autres villes, dans d'autres départements, donc il va falloir je veux dire à la fois la campagne.
Voilà, oui, parce que vous avez une notoriété maintenant.
Dans la suite des présidentielles, de fait, je vais avoir un rôle au moins de porte-parole nationale au moins pendant cette campagne des législatives, donc il va falloir gérer ça. La campagne là où je travaille, bon là ça sera moins compliqué parce que la législative, donc c'est la circonscription où je travaille, donc après ça sera les collages d'affiches, distribution de tracts, faire des marchés, enfin voilà la campagne classique sur le terrain. Et puis il y aura une réunion publique à Bordeaux le 6 juin, il y aura une réunion publique à au moins à Blanquefort, même si la date n'est pas encore fixée, voilà, donc il y aura toute cette activité là et puis avec le travail à l'usine, c'est arrivé à essayer de tout concilier, mais bon,
on y arrivera. Alors vous êtes militant politique, candidat et en même temps ouvrier. Il n'y a pas, à ma connaissance, d'ouvrier en activité à l'Assemblée nationale. C'est important aussi pour vous, ce symbole, qu'un ouvrier soit présent sur les bancs de l'Assemblée ?
Oui, c'est important. Enfin, un ouvrier au sens large, hein, c'est-à-dire des salariés, tout simplement. Comme on parlait des caissières tout à l'heure, ce serait important qu'il y ait des gens de la population, des gens d'en bas, qui soient réellement à l'Assemblée nationale. Alors, pas pour devenir des politiciens professionnels, parce que nous, on est contre ça, mais qu'il y ait une représentation de la population telle qu'elle est, à la fois socialement, mais aussi, donc, de toutes les couleurs, hein, parce qu'aujourd'hui, il manque cruellement d'Arabes, d'Asiatiques, enfin, de tout ce qui est population émigrée. Il manque de femmes. Il manque donc, socialement, d'ouvriers, de caissières, d'infirmières. Enfin, voilà, il manque plein de gens qui sont pas représentés aujourd'hui dans l'Assemblée nationale, mais ça c'est le reflet d'un système qui n'est pas démocratique. Alors l'objectif qu'on a, c'est pas de faire de la politique avec l'idée de devenir des politiciens de métier, mais qu'à un moment donné, oui, il y a une représentation, que ça tourne. C'est pour ça qu'on est contre le cumul des mandats, on est contre même la succession des mandats dans le temps.
Donc pas de cumul dans le temps, voilà.
Ouais, voilà, il faut que la population, eh ben, elle puisse participer à la vie politique au quotidien.
Ça vous choque qu'on soit député pendant 25 ans, 30
ans ? Ah oui, c'est complètement anormal, ouais, de toute sa vie, être 30 ans député, comme on le voit d'ailleurs, il y a plein de gens qui font ça, ou 30 ans élu, hein, il y en a qui vont succéder des mandats de maire, de député, de sénateur, et qui vont passer à un moment donné au gouvernement, ben voilà, oui, c'est nous on dénonce ça, c'est la vie politique professionnelle, c'est justement un vol du pouvoir, c'est un détournement du pouvoir, parce que finalement le pouvoir politique, il tourne entre les mêmes mains, ça devient une caste, et c'est cette caste des politiciens, et qui est complètement liée d'ailleurs au milieu financier et capitaliste, et on le voit bien, ben les uns rendent service aux autres, et voilà, donc il faut qu'on fasse voler en éclats ce système politique là et il faut absolument que la population prenne ses affaires en main, donc c'est aussi beaucoup c'est pour ça que c'est important que le fait qu'il y ait eu un ouvrier candidat aux élections présidentielles, de la même manière qu'il y avait le facteur avec Olivier Besancenot, tout ça c'est important parce que c'est cette idée qu'on veut faire passer, c'est que c'est à nous de prendre nos affaires en main, on a un cerveau, on doit s'en servir, on n'est pas bon uniquement à se faire exploiter ou à se faire licencier, on peut faire tout ça, et ça pose le problème donc d'une démocratie réel sur l'échelle du territoire.
Alors Philippe Poutou, imaginons que vous êtes élu député, soit au premier tour le 10 juin, ou alors au deuxième tour le 17 juin.
On va dire au deuxième tour. Hein.
Au deuxième tour, vous êtes modeste. Quel député souhaitez-vous être ? Comment vous voyez votre fonction ? Qu'est-ce que vous allez faire pour aider à la fois les habitants de votre circonscription, mais aussi les Français, puisque vous serez un élu national ?
Ah ben après c'est le rôle, du point de vue du discours, et n'importe qui est capable de dire ça, mais de porter en fait la parole de la population, de défendre ses intérêts de la population, et ça tout le monde peut le dire, mais après il faut arriver à imaginer un système politique qui soit réellement transparent, qui soit réellement efficace et donc réellement démocratique, et ça voudrait dire que il y ait la possibilité au niveau de la société partout, tout simplement que la population elle ait un droit de décider. Un droit de contrôler ce qui se passe. Un élu aujourd'hui, par exemple, si moi je suis élu, mais comme un autre, bon, moi je serais pas élu parce que donc la loi ne le permet pas. On fait pas des scores qui permettraient d'être élu. Mais ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait un contrôle sur l'élu en permanence, que la population ait le droit de révoquer un élu quand il remplit pas son mandat, quand il respecte pas ses promesses. Ça serait ça à mettre déjà en place de suite. Après, la question, c'est ça, c'est ce rapport entre l'élu et la population, mais il faudrait qu'on transforme tout ça. C'est qu'il faut pas qu'il y ait une spécialisation, encore une fois. Il faut qu'il y ait une vie politique réelle et que la population ait un rapport étroit avec les élus. Mais donc, voilà. Oui.
Voilà, vous n'envisagez pas donc d'être élu. Vous venez de nous le dire. Mais moi, je suis plus optimiste que vous. Imaginons quand même que vous soyez élu. Quelle première loi proposerez-vous à vos collègues députés, puisqu'il y a une initiative parlementaire qui existe?
Oui, ben ça, des lois, on a plein d'idées. Hein. Déjà, on défend cette idée l'idée qu'il faudrait interdire les licenciements, qu'il faudrait stopper les suppressions d'emplois dans les services publics. Ça paraît aujourd'hui la première urgence, hein, répondre au drame du chômage et de la précarité, parce qu'on entend toujours parler de ces chiffres-là, 3 millions de chômeurs et à peu près 5 millions tout compris, hein, c'est-à-dire ceux qui travaillent un petit peu. Donc on voit aujourd'hui que ce sont 7 millions de gens précaires. Donc ça, derrière, ce sont des drames humains, ce sont des gens qui souffrent, ce sont des gens qui sont rejetés de la société ou de plus en plus. Et puis en plus, à côté de ça, ce sont des gens qui s'enfoncent dans une pauvreté. Donc là, ouais, la première urgence, ce serait ça. Ce serait qu'on arrive à voter une loi qui empêche de licencier et qui empêche au patron de faire ce qu'il veut et à l'ensemble des grosses entreprises. Mais même après, ça voudrait dire mettre en place une nouvelle branche de la sécurité sociale qui permette d'assurer le maintien des emplois dans toutes les entreprises. Parce que là, c'est plus facile à imaginer dans les grosses entreprises capitalistes qui font des bénéfices, où on se dit, bah oui, ils peuvent interdire les licenciements parce qu'ils font des bénéfices. Et après, on nous répond toujours, mais oui, mais les toutes petites entreprises, comment on ferait dans ces cas-là? Une entreprise de 10, 15, 20 salariés, si le patron ne peut pas, comment il ferait? Eh bien, il faudrait un système de solidarité entre l'ensemble des entreprises qui permet justement de faire en sorte qu'il y ait un fonds de sécurité qui assure la continuité de l'emploi. Et donc ça serait financé par les grosses entreprises capitalistes. Mais il y a besoin de lois, effectivement, à mettre en place pour répondre à l'urgence sociale. Il y a la question du logement aussi. Il y a la question des services publics que je disais tout à l'heure. La question de la santé, la question du service public de l'énergie. Tout ça, c'est urgent. Il faut mettre en place des services publics réels qui répondent aux besoins des populations. Ça passe par des lois, mais encore une fois, ça passe aussi et certainement par une pression sociale par en bas, par des luttes qui permettraient d'imposer, en tout cas de pousser les députés, de pousser les gouvernements à voter des lois qui soient favorables à l'ensemble de la population.
Alors Philippe Poutou, vous regrettez que l'absence de proportionnel vous empêche d'être élu à l'Assemblée nationale. Le NPA propose donc 300 candidats à ces législatives. Est-ce que vous n'auriez pas eu finalement intérêt à vous rapprocher du Front de gauche qui aura des élus? Pourquoi vous avez refusé d'intégrer le Front de gauche qui regroupe le Parti communiste, le Parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon? Vous auriez peut-être pu de cette manière-là avoir des élus.
Ça aurait pu, effectivement, mais la difficulté qu'il y a, c'est que...
Vous avez beaucoup de points communs, quand même.
Il y a beaucoup de points communs sur les revendications sociales, notamment, sur même la question des licenciements, la question du chômage, la question des logements, la question des services publics. C'est vrai qu'il y a beaucoup de points communs, mais il y a aussi des divergences importantes. Hein, la question du nucléaire, nous, on est pour la sortie du nucléaire le plus rapidement possible. On a des divergences qui sont d'ordre économique tout simplement, hein, parce que on est pour l'expropriation des banques et faire en sorte qu'il y ait un service public bancaire, enfin un monopole public bancaire sous contrôle de la population. Et ça, on n'est pas d'accord avec le Front de gauche. On n'est pas d'accord non plus sur la question qu'en fait il faut s'affronter au capital, il faut s'affronter aux capitalistes, et que les solutions de répartition des richesses, ça passera par une remise en cause de la propriété des capitalistes. Bon, ça, ce sont des accords politiques globaux.
Mais est-ce que la stratégie politique finalement ne commande pas de renoncer à certains principes
Il peut y avoir des compromis, mais ce que je disais là tout à l'heure, c'est-à-dire les désaccords qu'il peut y avoir sur la question des banques, sur la question de la dette même, parce qu'on est pour l'annulation de la dette, et donc la question de la propriété des capitalistes et du pouvoir des capitalistes sur l'économie, on a un désaccord fondamental là-dessus avec eux, et derrière, et ça c'est lié, c'est la question des liens avec le Parti Socialiste. Aujourd'hui, il y a un Parti Socialiste qui est un parti libéral et qui mènera une politique libérale.
Pour l'instant, il n'y a pas de communistes au gouvernement.
Non, mais sans parler de participation au gouvernement, parce que c'est pas ça, à tous les coups, il n'y en aura pas, même après les législatives. Mais aujourd'hui, il suffit de voir les régions, comment elles sont gérées. Sur 21 régions qui sont dirigées par le Parti Socialiste, il y a 20 régions où les élus du Front de gauche votent les budgets du Parti Socialiste, donc des budgets libéraux, hein, qui font l'inverse de ce qui est dans les revendications du Front de gauche pendant les présidentielles, c'est-à-dire qu'ils donnent de l'argent aux grosses multinationales, qui licencient quand même, qui privatisent les services publics. Donc là, il y a un problème de solidarité politique entre le Front de gauche et le Parti Socialiste. Et nous, ben, il y a quelque chose qu'on tient à cœur, c'est cette indépendance politique-là, parce que si c'est pour, une fois qu'on est élu, faire l'inverse de ce qu'on revendique au quotidien, ça peut pas le faire. Et aujourd'hui, il y a des contradictions énormes qui sont, en tout cas, gérées par le Front de gauche. C'est pour ça qu'on n'est pas avec eux, parce que être avec eux aujourd'hui dans des élections, ça voudrait dire accepter par avance la politique du Parti Socialiste, et ça veut dire tout simplement par avance, donc c'est des conditions, des accords politiques, hein, voter les budgets du PS. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans les régions, et si on devait trouver un accord avec le Front de gauche aujourd'hui, ben on le voit, hein, le Front de gauche, ben c'est le PC notamment, qui discute discutent avec le PS, des accords dans les législatives, et derrière, eh bien, ils discutent au minimum d'une solidarité gouvernementale, même s'ils y vont pas. Donc voilà. Alors c'est vrai que on n'aura pas d'élu aujourd'hui parce qu'on fait cavalier seul, mais cavalier seul dans le sens où on tient à garder cette indépendance politique là. On verra demain comment ça se passe, mais c'est vrai qu'en même temps, on tient aussi à mettre en avant une politique unitaire.
Mais c'est en même temps une indépendance qui n'aboutit pas à l'exercice du pouvoir. Et finalement, ouais, comment mettre en place vos idées sans avoir le pouvoir?
Mais ouais, mais on peut discuter de ce qui s'est passé ces dernières années où le PC a participé au gouvernement avec Mitterrand. Il y a eu une gauche plurielle avec Jospin. Et on a bien vu que les idées, ce qu'on appelle les forces du front de gauche, n'ont pas avancé. Hein. Donc c'est ça, s'il faut tirer les leçons de tout ça, c'est qu'il faut discuter d'une véritable indépendance politique. Il faut discuter aujourd'hui de comment on peut mettre en place les revendications qu'on a, comment on peut imposer une véritable politique de gauche. Eh bien, ça passe pas par ces compromis-là, ça passe pas par finalement, au bout du compte, soutenir un gouvernement socialiste. Il faut vraiment une politique indépendante. Et nous, ce qu'on veut, c'est pour ça qu'on veut construire un parti qui, même si aujourd'hui on est faible en nombre, mais on espère bien construire une véritable force politique pour les opprimés. Mais en même temps, on a une politique unitaire parce que nous, ce qu'on discute et ce qu'on essaie de discuter avec les militants du Front de Gauche, que ce soit du PG, du PC, avec les militants de lutte ouvrière, mais même avec les militants associatifs ou les militants syndicaux, c'est ça qu'on essaie de discuter, c'est comment on peut construire cette force anticapitaliste, une force sociale qui soit indépendante des partis de gouvernement, indépendante des partis qui sont liés avec les forces capitalistes. Comment on construit cette force qui soit vraiment une force des opprimés pour imposer un programme qui réponde aux besoins des populations. Et ça, c'est la question du moment. Mais c'est certainement pas par des accords électoraux comme il y a aujourd'hui du côté du Front de Gauche et du Parti Socialiste ou du côté des Verts.
Quel regard, Philippe Poutou, portez-vous sur la compétition entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon à Hénin-Beaumont? Est-ce que vous trouvez que l'ex-candidat du Front de Gauche a raison d'être candidat face à sa rivale du Front National, ou bien est-ce qu'on est dans la politique spectacle?
Ben ouais, on est un peu quand même dans la politique spectacle, mais après, ceci dit, on aurait été pour une discussion avant que ce soit... Parce que là, il arrive, il dit, bon voilà, je serai candidat, mais ça aurait pu très bien se passer différemment, en se posant le problème ensemble, du côté de la gauche, de comment on fait face à l'extrême droite, comment on fait face au Front National.
Vous auriez candidat du NPA
Avant Mélenchon, on avait déjà une candidate, c'est Séverine, et qui était déjà candidate il y a 5 ans, et qui vit là-bas, qui milite là-bas, donc on a un candidat. Mais ce qu'aurait dû se discuter, c'est ça, c'est qu'avant d'arriver comme ça et en faisant une grande annonce, ça aurait pu se faire de discuter d'une candidature commune et de comment on pouvait faire face à Marine Le Pen et au Front National. Ça n'a pas été le cas. Donc d'ailleurs, c'est un peu le bazar là-bas, parce que il y a un candidat PS, il y a un candidat écolo, il y a Mélenchon, il y a le MPEP qui est un des membres, enfin un des constituants du Front de Gauche, et il y a le NPA. Donc voilà, il y a quelque chose qui tourne pas rond de ce côté-là, c'est que ça aurait pu se discuter différemment. Maintenant, c'est pas non plus une circonscription où le Front National est parti pour être élu, hein, parce que là, c'est la majorité, voilà.
Il y a, ouais, la,
voilà, c'est la gauche qui gagne dans tous les cas. Alors, ça peut être Mélenchon comme le Parti Socialiste. De toute façon, au deuxième tour, s'il y a le Front National qui est présente, là, dans ce cas-là, s'il y a Marine Le Pen, mais ça va être le cas dans d'autres circonscriptions, nous, l'NPA, on se positionnera contre le Front National. Et on appellera à voter pour le candidat de gauche qui sera présent face au Front National.
Alors, l'une des conséquences de la crise en Grèce, c'est l'émergence de partis politiques radicaux. D'abord, Alexis Tsipras, chef du parti de gauche radical Syriza. Alors, j'imagine que vous soutenez sa lutte contre l'austérité. Mmh. Et alors, dans le même temps, il y a aussi ce parti néo-nazi très inquiétant. Qu'est-ce que ça vous inspire, la montée en puissance de ces deux tendances totalement opposées, extrême gauche, extrême droite en Grèce?
En Grèce, mais comme un peu partout, ça va peut-être se passer comme ça. C'est qu'il y a une crise qui est brutale, qui fait beaucoup de dégâts, et on s'aperçoit que finalement tous les courants réformistes, enfin, qu'ils soient de gauche ou de droite, ont été complètement discrédités à travers leur passage au gouvernement. Parce que là, c'est ce qui se passe, c'est qu'il y a un rejet de tous les gouvernants, de tous ceux qui ont gouverné.
C'est ce qui risque de se passer.
Et là, il y a une radicalisation, ce qui peut se passer en France. Ouais,
si François Hollande échoue, vous pensez que c'est on peut se radicaliser, la France peut se radicaliser.
Ouais, dans les deux sens justement. aller dans le sens qu'il peut y avoir une extrême droite qui se développe, qui d'ailleurs on le voit, il y a des calculs aujourd'hui politiques de reconstruction d'une force à droite de la droite, hein, une droite nationaliste, une droite dure. On voit les appels du Front National, mais on voit aussi les tentatives, enfin les ceux de l'UMP qui seraient tentés par cette expérience-là. Oui, il y a un danger. En tout cas, celui-là, il est plus clair. On voit le danger de la construction d'une droite dure. Et encore une fois, c'est la réponse à la crise. C'est-à-dire, plus la crise s'approfondit, plus il y a des risques de révolte, plus il va y avoir une radicalisation de la droite et une radicalisation des capitalistes pour museler la population, pour la faire taire et pour imposer une politique répressive et autoritaire. Ça, c'est le premier danger qu'on voit, qui est facile à voir. Après, ce qu'on peut espérer, c'est que du côté de la population ou du côté des forces de la gauche, il y a là aussi un outil politique qui se construise et qui permette, qui soit l'instrument des luttes sociales pour demain, pour arriver à la fois à imposer la sortie de l'austérité et puis d'imposer une politique sociale en réponse aux besoins de les populations.
Vous souhaitez mort de l'euro, la sortie de l'euro?
Non, ça, pour nous, ça se pose pas comme ça. Là, c'est pas est-ce qu'on sort de l'euro, est-ce qu'il faut rester dans l'euro, est-ce qu'on sort de l'Europe, est-ce que nous on pense qu'il faut construire une véritable Europe, mais une Europe des peuples, une Europe solidaire, une Europe qui mette en place, qui discute d'harmonisation du droit social par en haut, d'un SMIC européen, et donc d'une Europe qui se construise en opposition à l'Europe des capitalistes, et ça passera par un système bancaire qui soit sous contrôle des populations. C'est pour ça que nous on discute, et ça c'est fondamental, de l'expropriation du système bancaire à l'échelle européenne, qu'on ait un monopole public bancaire et que la dette soit annulée dans tous les pays, mais qu'en fait l'économie soit sous contrôle de la population. Alors ça paraît toujours pareil, ça paraît toujours comme un truc utopique de dire que la population va contrôler tout ça, mais ça sera la seule solution, parce qu'on voit aujourd'hui la crise du monde capitaliste, on voit la logique capitaliste, la course de rentabilité ou course au profit, à quoi ça amène? Ça amène à des situations catastrophiques, donc il faut stopper tout ça, et pour stopper ça, il faut une politique qui soit complètement à l'opposé de ce qui a été fait depuis des années, depuis très longtemps. Oui, ça veut dire qu'il faut s'affronter au capital.
Philippe Poutou, on le sait, le NPA est très impliqué dans la défense de la cause palestinienne. On vous voit dans les manifestations aux côtés des militants du Parti communiste. Les prisonniers palestiniens ont mené récemment une grève de la faim pour protester contre leurs conditions de détention. Qu'est-ce que vous attendez du nouveau ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, sur cette question palestinienne?
Eh bien là, c'est pareil, toujours dire qu'on peut attendre des tas de choses qui soient dans le sens de ce qu'on défend, c'est-à-dire de ce qui n'a pas été fait depuis des années. C'est-à-dire que nous, on défend évidemment la lutte des grévistes de la faim, même si là, il y a un petit geste qui a été fait par le gouvernement israélien, hein, par Netanyahou, qui a un peu reculé. Et c'est pour dire que la bataille parce que je crois qu'il y avait au moins 2000 grévistes de la faim, mais même un peu plus, hein, pour dénoncer les conditions
des prisonniers,
les conditions de détention. Mais heureusement aussi qu'il y a une mobilisation de la population là-bas, dans les colonies israéliennes, mais même du côté de la population israélienne. Heureusement qu'il y a une pression qui s'exerce pour faire avancer les choses. Alors de ce côté-là, les gouvernements depuis des années, mais le gouvernement français comme plein d'autres, ont une politique qui est particulièrement hypocrite, hein, parce qu'on sait que derrière, ils soutiennent plus ou moins le pouvoir israélien, et puis d'un côté il y a ce soutien politique réel, puis de l'autre côté il y a un semblant de sympathie pour les luttes du peuple palestinien. Là moi je pense qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, et je pense qu'avec la gauche ça va continuer. Donc après, encore une fois, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des batailles sociales, et heureusement qu'il y a eu cette grève de la faim, heureusement qu'il y a des batailles là-bas du côté du peuple palestinien, et heureusement qu'ici aussi il y a des associations, il y a des partis de gauche, enfin en tout cas la gauche de la gauche qui mène cette lutte-là. Mais c'est là aussi une question de pression, il va falloir qu'on mène une pression, parce qu'aujourd'hui il faut stopper cette politique d'oppression de l'État d'Israël.
Il y a aussi des militants pro-palestiniens qui ont eu affaire à la justice parce qu'ils ont soutenu le boycott des produits israéliens. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces procès faits aux militants de la cause palestinienne?
C'est une logique de répression, mais ça montre là aussi, ça montre le camp que choisit l'État français, le gouvernement français quand il y a ces accusations là, enfin ces procès là. En Bordeaux aussi, il y a une militante qui a été condamnée par avoir participé à l'opération BDS, et donc en collant des autocollants, enfin toute la solidarité. Il y a une répression contre cette bataille là contre la lutte d'émancipation du peuple palestinien, et toute la solidarité qu'il y a autour. Donc oui, il faut renforcer cette bataille là. Il faut aujourd'hui, ça fait plus de 40 ans que ça dure, il faut aujourd'hui qu'il y ait une reconnaissance d'un droit palestinien, d'un État palestinien, ou la reconnaissance d'un État binational, ce qui serait le mieux. Mais bon, ça passera par une bataille. Et on espère bien qu'il y aura une solidarité entre la population palestinienne et la population israélienne qui est révoltée par le colonialisme. Mais c'est sûr qu'il faut que les droits des peuples palestiniens soient reconnus. Et ça, c'est pour ça qu'on est à fond dans cette bataille-là. On soutient et on espère bien que ça va se renforcer aussi, parce que ça fait partie aujourd'hui à l'échelle de la planète le cas du peuple palestinien, c'est peut-être un des plus dramatiques aujourd'hui, et il va falloir qu'il y ait une solution qui soit trouvée, et ça reposera sur la lutte du peuple lui-même et de la solidarité internationale.
Dernière question, vous avez évoqué le colonialisme. Cette année, on commémore les 50 ans de l'indépendance de l'Algérie. Qu'est-ce que vous attendez de la part du président Hollande à cette occasion pour tourner enfin la page de la guerre d'Algérie? Est-ce qu'il faut que le président français fasse acte de repentance?
Ouais, j'en sais rien de ce côté-là. On verra bien comment il gérera la chose, mais je crois pas qu'il y ait grand-chose à attendre du côté du gouvernement Hollande. Mais comme il s'était pas passé grand-chose du côté du gouvernement Jospin ou même avec Mitterrand, parce qu'on sait que la gauche, notamment le Parti socialiste, ils ont un passé colonial quand même très ambigu, parce que là, on peut parler de la guerre d'Algérie, la guerre contre l'indépendance, enfin contre la volonté du peuple algérien de se battre à l'époque. Hein, c'était quand même Mitterrand qui était au pouvoir. Ministre de l'Intérieur, je crois, et puis il y a eu toute une politique de la gauche plus qu'ambigu, qui a défendu l'État, l'ordre colonial. Et aujourd'hui, on a une gauche PS qui est pas du tout anticoloniale, parce qu'on pourrait discuter aujourd'hui des dom-toms, enfin des ex-colonies françaises. Nous, on défend le droit à l'autonomie de ces peuples-là. On est pour l'indépendance quand les peuples la revendiquent. Et c'est pas du tout le cas du Parti socialiste aujourd'hui. Donc, je pense que le Parti socialiste va être dans des positions hypocrites et des positions entre deux. Mais là encore une fois, ça reposera sur des luttes sociales et des batailles pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, contre l'impérialisme français, parce que là aussi on discute aujourd'hui du retrait des troupes en Afghanistan, mais ça veut dire aussi supprimer toutes les casernes militaires qu'il peut y avoir en Afrique ou ailleurs. Il faut arriver à dénoncer cette politique impérialiste, cette politique aujourd'hui qui se traduit notamment à travers des groupes capitalistes comme Total ou Bolloré, hein, qui vont piller, exploiter des salariés en Afrique, mais qui vont aussi piller des richesses en Afrique. Donc c'est tout ça qu'il faudrait discuter. Donc la politique coloniale, ce n'est pas que du passé.
Merci Philippe Poutou. Je rappelle que vous êtes candidat du NPA aux législatives dans la 5e circonscription de Gironde. Bonsoir.
Bonsoir.
C'était Pluriel, le club de la presse de Radio Orient. Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.